en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Dans le cadre du colloque parrainé par l'Académie des sciences morales et politiques sur le philosophe et académicien Adolphe Franck, Canal Academy vous propose l'enregistrement de deux interventions. La première est celle de Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire à Paris-Sorbonne Paris 4, sur le contexte religieux du Second Empire. Il nous y présente les relations complexes entre Napoléon III et les ordres religieux, entre intérêts, ambitions et volonté de pluralisme. Il nous décrit aussi la montée de l'anticléricalisme à la fin du Second Empire, prémisse de la séparation de l'Église et de l'État de 1905. La seconde intervention sera celle de Yves Brulet, de l'Institut d'études politiques de Paris, qui nous parlera de l'académicien Adolphe Franck en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Tout de suite, Jacques-Olivier Boudon, Adolphe Franck et le paysage religieux du Second Empire.
Mon propos va nous permettre d'approfondir davantage que la pensée d'Adolphe Franck le contexte dans lequel se développe une grande partie de son action, puisque à la demande de Jérôme Grondeux, j'ai accepté de vous parler de ce paysage religieux du Second Empire qui, dans la mesure qui m'est familier, davantage que ne l'est pour moi Adolphe Franck. Mais j'essaierai malgré tout de relier cette personnalité dont on a vu déjà l'importance à ce contexte général des années 1850 à 1870. On aurait pu aller au-delà, mais j'ai tout à fait, de façon disciplinée, limité mon propos au thème qui m'était proposé. Alors, je partirai d'un extrait d'un ouvrage que Adolphe Franck publie en 1866. Il s'agit des éléments de morale, ouvrage qui, nous dit le sous-titre, a été rédigé conformément au programme officiel de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial. Dans cet ouvrage, on peut lire en particulier cette phrase que je vous cite, « Le culte que nous devons à Dieu et les devoirs que nous avons à remplir envers nos semblables et envers nous-mêmes, le sentiment religieux et le respect de la loi morale sont des choses absolument inséparables, comme l'idée de Dieu et l'idée de devoir. » Et il renvoie à un autre chapitre où il a démontré les raisons de croire en l'existence de Dieu. Ainsi, poursuit le texte, « Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, l'existence du devoir si énergiquement proclamé par la conscience du genre humain est une des preuves les plus irrécusables sur lesquelles on puisse appuyer l'existence de Dieu, car comment concevoir une loi sans un législateur ? À la fois, donc, démonstration de l'existence de Dieu, mais aussi importance de la religion pour ce que l'on pourrait appeler le respect de la vie en société, et d'une certaine manière, à travers ce cours, Adolphe Franck n'est pas loin d'épouser la philosophie officielle du régime du Second Empire en matière de religion. Napoléon III, en effet, fidèle à la pensée de son oncle, l'auteur du système des cultes reconnus, considère, comme Napoléon Ier, que la religion est essentielle à la vie en société, qu'elle est en quelque sorte un facteur d'ordre social. Pourtant, on garde l'image d'un Second Empire comme celui d'un régime marqué par l'alliance du trône et de l'autel. L'image n'est évidemment pas dénuée de fondement et on pourrait rappeler la volonté de Napoléon III, dès les premières années de son règne, de se faire sacrer par le pape Pie IX. Mais cette image doit aussi être nuancée en prenant en compte l'attachement de Napoléon III au pluralisme religieux. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'affermissement, le développement du judaïsme français et en particulier du judaïsme parisien. Je vais essayer donc de vous montrer, au cours de ce bref exposé, comment le Second Empire peut être d'une part caractérisé comme étant l'âge d'or du judaïsme français, et comment aussi celui-ci s'intègre dans ce régime marqué par l'union du trône et de l'autel, comment d'une certaine manière Napoléon III a joué de ce pluralisme, a montré son attachement à ce pluralisme religieux tout en cherchant, et ça n'est pas le moindre des paradoxes, tout en cherchant à établir en France ce que l'on peut appeler une monarchie chrétienne. Alors, je passerai vite sur les premiers éléments, mais je vous rappellerai malgré tout qu'Adolphe Franck, dont on a vu quelles étaient les origines mosellanes, Adolphe Franck appartient à une communauté, la communauté juive de Paris, qui n'a cessé de se développer dans la première moitié du XIXe siècle. Le chiffre a été donné tout à l'heure, avant la Révolution française, il y a moins de 600 juifs à Paris. Ils sont 8000 en 1840, 20000 en 1853 et entre 21 et 25 000 en 1861, au moment du recensement qui signale encore l'appartenance religieuse des citoyens français. Désormais, la communauté parisienne est donc la plus importante. Elle réunit près d'un tiers, plus exactement 30% des Juifs de France. Cette croissance est due à une forte immigration en provenance de l'Est, laquelle a fini par marginaliser au sein de la communauté parisienne les Juifs du Comtat, qui formaient l'essentiel de la communauté initiale. Paris, siège du consistoire central, depuis les décrets d'organisation de mars 1808, renforce ainsi, au cours du Second Empire, son caractère de capitale du judaïsme français, ce que l'arrivée du séminaire rabbinique de Metz en 1859 ne fait qu'accentuer encore dans les dernières années du règne de Napoléon III. Ce caractère central pourrait se retrouver aussi dans la publication de journaux israélites depuis les années 40, les archives israélites, l'univers israélite notamment. Cette communauté, vous le savez fort bien, offre la particularité d'être composée d'une élite d'environ un quart de représentants de la bourgeoisie qui, dans ce Second Empire, c'est trop bien connu pour que j'y insiste, participe très largement au développement économique, industriel du pays. Mais il existe aussi un petit peuple juif, 20% des juifs parisiens sont alors secourus par le comité de bienfaisance au milieu des années 50. Cette communauté juive de Paris, elle est, comme depuis l'origine, organisée au sein d'un consistoire départemental, dont je rappellerai ici qu'il subit quelques modifications dans son organisation, en particulier après le décret de 1862 qui modifie les conditions d'accès au bureau et oblige en particulier à payer, à verser, pour être électeur, une somme minimum aux différentes œuvres juives. C'est l'occasion ici aussi de rappeler l'importance de ces œuvres qui se sont développées à partir des années 1840 et dont la plus importante est incontestablement le comité de bienfaisance parisien, dont le budget explose dans les années qui nous intéressent. À ce comité, d'ailleurs, Adolphe Franck verse la modeste somme de 20 francs par an, 10 autres francs étant donnés à l'œuvre des femmes en couche. Donc, une communauté juive de Paris, à laquelle Adolphe Franck est évidemment associé, dont il est partie prenante, une communauté qui s'est fortement développée, qui imprime aussi sa marque au judaïsme français et qui, du fait de la proximité du pouvoir, joue également un rôle très influent sur les décisions politiques prises en matière religieuse. On a évoqué également, il y a un instant, l'appartenance d'Adolphe Franck au Conseil impérial de l'instruction publique. Il y côtoie évidemment des représentants des autres cultes, ce qui m'amène à essayer de comprendre dans un second temps comment comment la coexistence a pu se faire entre ce judaïsme qui manifeste une grande vitalité au sein de ce régime qui est marqué par l'union du trône et de l'autel. Cette union du trône et de l'autel, c'est-à-dire de la monarchie de Napoléon III et de l'Église catholique, elle est perceptible dès les lendemains du coup d'État du 2 décembre 1851 et ce caractère se renforce après la proclamation de l'Empire en 1853. Comment peut-on la caractériser? Je serai extrêmement bref ici pour ces quelques rappels. Cela passe d'abord par l'augmentation du budget des cultes qui va favoriser l'augmentation des traitements, l'augmentation du nombre des postes budgétaires. Je soulignerai au passage que l'augmentation des traitements et des postes budgétaires ne s'applique pas uniquement au culte catholique, mais également aux deux cultes protestants et au culte israélite. Pour les catholiques, c'est aussi le retour des honneurs nombreux qui, au moment des manifestations, des processions, etc., permettent de valoriser le catholicisme au détriment, d'une certaine manière, des autres religions. C'est l'entrée au Sénat de droit des cardinaux qui est inscrit dans la Constitution de 1852. C'est la protection du clergé enfin, du clergé catholique qui ne peut se voir accusé, notamment dans la presse, mis en cause par les non-catholiques ou les anticléricaux. C'est enfin, et on peut rappeler ce point parce qu'il est important dans le contexte qui nous intéresse, c'est enfin la volonté de Napoléon III de restaurer l'Empire tel qu'il a pu exister sous le Premier Empire. Il rêve d'un sacre que le pape Pie IX pourrait lui administrer. Les négociations vont durer de longues années, pratiquement jusqu'en 1855. Et parallèlement, Napoléon III engage la refondation d'une institution d'ancien régime au sein de la maison de l'empereur. Je veux parler de la grande aumônerie qui assure le service religieux à la cour et qui, faute d'avoir pu organiser le sacre de Napoléon III, sera en première ligne dans l'organisation de la manifestation qui, en quelque sorte, se substitue au sacre qui n'a pas lieu. Je veux parler du baptême du prince impérial en 1856 à Notre-Dame de Paris, en présence du légat du pape qui représente ce dernier parrain de l'enfant. Nous sommes alors au cœur, au sommet de cette politique de rapprochement avec l'Église catholique, qui est également marquée dans les années 1850 par l'essor du courant intransigeant, du courant ultramontain, marqué par le progrès des congrégations religieuses, des écoles catholiques au lendemain du vote de la loi Falloux, marqué aussi dans ces mêmes années 50 par un prosélytisme de plus en plus actif à travers l'œuvre de Notre-Dame de Sion, par exemple. On est dans ces années 50, donc, dans le cadre de l'union du trône et de l'autel, incontestablement, même s'il n'y a pas, de la part du pouvoir, une volonté de réprimer les autres cultes reconnus. En effet, et ce sera le troisième point que je voudrais examiner avec vous, en effet, dans le même temps où le régime de Napoléon III s'attache à élaborer, à mettre en place une monarchie chrétienne, il se montre aussi favorable au respect du pluralisme religieux et renonce à aller trop loin dans l'union avec l'Église catholique. La première limite qui est faite à ce rapprochement entre l'Église catholique et le régime impérial et qui permet de comprendre l'ensemble de l'attitude de Napoléon III à l'égard des religions, c'est le refus de Napoléon III d'abandonner les articles organiques qui, comme vous le savez, ont été rajoutés au Concordat de 1802 pour former la loi du 18 Germinal en 10. Ces articles organiques, qui, au-delà de l'organisation de l'Église catholique et des deux cultes protestants, culte réformé et culte de la confession d'Augsbourg, ces articles organiques sont aussi un arsenal pour le contrôle de ces églises, de ces cultes, pour l'exercice d'une police des cultes qui reste, aux yeux de Napoléon III, essentielle. Napoléon III refuse donc de sacrifier les articles organiques, condition expresse mise par le pape Pie IX à un éventuel sacre de l'empereur. De la même façon, il restera attentif à limiter l'essor de la liberté de l'éducation et, vous le savez, jusqu'à la fin de son règne, refusera l'adoption d'une loi sur la liberté de l'enseignement supérieur. Mais c'est sans doute le développement d'une religion catholique démonstrative, omnipotente, ou en tout cas qui cherche à l'être dans la fin des années 50, qui marque aussi les esprits et contribue à la réorientation de Napoléon III. L'année 1858, à cet égard, a été très importante. Elle est marquée par deux événements que l'on peut rapprocher. Il y a été fait allusion par M. Veil tout à l'heure, que l'on peut rapprocher à travers le nom de Louis Veuillot. Je veux parler des apparitions mariales à Lourdes et de l'affaire Mortara qui secoue l'opinion publique à travers le monde, mais surtout, en tout cas en premier lieu, en France. Affaire Mortara qui démontre à Napoléon III quelque chose qu'il savait déjà, il a combattu dans sa jeunesse le pouvoir temporel du pape, mais cette affaire Mortara vient lui rappeler le caractère intransigeant et anachronique de la papauté à travers cette volonté d'élever dans la religion catholique ce jeune enfant né de parents juifs 6 ans plus tôt. À cet égard, Napoléon III n'hésite pas à affronter le pape, Et on peut penser, on sait que cette affaire a eu une influence non négligeable dans la décision prise par la suite par Napoléon III de prendre ses distances avec la papauté en engageant la réflexion avec les Piémontais qui devait conduire à la guerre d'Italie. À partir de ce moment-là, les années 1859-1860, Napoléon III, à l'image de son oncle Napoléon Ier, n'hésite plus à affronter le pape. Il le fait de façon, on le sait, de façon ambiguë. Il est à la fois celui qui va favoriser l'unité italienne à partir de 1860, mais aussi celui qui met un terme à la guerre d'Italie et qui sauve les derniers restes de pouvoir temporel du pape en maintenant une garnison à Rome jusqu'en 1866, puis à partir de 1867 jusqu'à la guerre franco-prussienne. Il y a donc cette ambivalence dans l'attitude de Napoléon III, ambivalence qui s'explique par le fait qu'il sait fort bien que la religion dominante en France, la religion de la majorité des citoyens français, comme le proclamait le préambule du Concordat, est formée par les catholiques, mais en même temps, il n'entend pas se laisser guider ses choix en matière de politique extérieure. Et on aura donc, pendant cette décennie 1860, cette ambivalence entre le soutien du pape et l'espoir qu'à Napoléon III de bénéficier encore de la protection, du soutien des catholiques français. Et de ce point de vue, il réussit la manœuvre puisque le dernier plébiscite de l'Empire en mai 1870 confirme l'attachement des catholiques au régime. Mais dans le même temps, il va favoriser l'émergence d'un courant que l'on peut qualifier de courant néo-gallican au sein de l'Église de France, à travers la refonte, par exemple, de l'épiscopat français, dont l'une des figures majeures sera, à partir de 1863, l'archevêque de Paris, Mgr Darbois. Il va favoriser aussi le développement d'un courant anticlérical qui s'appuie précisément sur les velléités ultramontaines des catholiques proches de Louis Veuillot. Et dans les années 1860, à partir notamment de 1864, la querelle, le débat autour de la publication du syllabus, ce catalogue d'erreurs condamnant les principales réformes depuis la Révolution française, cette condamnation donc va susciter un fort émoi dans l'opinion publique. Tous ces éléments permettent de comprendre, je pense, et je reviens ici à Adolphe Franck, permettent de comprendre le nouveau climat dans lequel se développent les débats, débats religieux, débats politiques, débats aussi sur l'éducation. On évoquait le Conseil supérieur ou conseil impérial avant 1870 de l'instruction publique, il est frappant de voir qu'au cours des années 60, la phalange intransigeante de l'épiscopat, qui composait les cinq membres, les cinq évêques présents au sein de ce conseil, cette phalange est progressivement remplacée dans les années 60 par des gallicans, par des libéraux, au premier rang desquels figure l'archevêque d'Arbois dont je parlais il y a un instant. Alors, je ne sais si cela a favorisé le dialogue entre les uns et les autres, mais il faut aussi mettre cela en relation avec le fait que l'Institut, en particulier l'Académie française, est à la même époque un des foyers de résistance au régime impérial à travers la présence de catholiques libéraux qui ont été nommés ou élus depuis les débuts du Second Empire. La relation dont j'avoue que je n'ai pas réussi à voir si elle s'était fortement développée, mais la relation éventuelle entre Franck et Darbois me conduit à rappeler que finalement le Second Empire s'achève sur une révolution qui elle-même porte en germe en quelque sorte le mouvement de la Commune, mouvement de la Commune qui sera marqué par un sursaut d'anticléricalisme extrêmement virulent et qui s'achèvera, qui est marqué aussi par la décision de séparation de l'Église et de l'État, et qui s'achèvera par, entre autres, l'exécution de l'archevêque de Paris, lequel avait eu l'occasion, au moment du siège de Paris, d'entrer en relation avec le grand rabbin et les représentants des cultes protestants afin de négocier, d'engager une négociation ou une médiation pour favoriser le sort de la population parisienne, médiation avec Bismarck, bien entendu. À la fin de l'Empire également, il faut rappeler que Napoléon III avait envisagé de faire venir au Sénat le grand rabbin afin, en quelque sorte, de manifester sa volonté de réforme et d'associer au Sénat toutes les hautes autorités de l'État, comme cela avait été fait, comme c'était le cas depuis 1852. Le Second Empire s'achève par conséquent avec l'émergence de cette pensée républicaine qui s'appuie très largement sur un programme anticlérical, faisant de la séparation de l'Église et de l'État un des points forts de son message. On sait que ce programme ne sera mis en place progressivement qu'à partir des années 1880 et se prolongera jusqu'en 1905 avec la séparation des Églises et de l'État. On a rappelé aussi tout à l'heure le point de vue, la position d'Adolphe Franck à propos de la séparation de l'Église et de l'État. Il est frappant en effet de constater que cette communauté juive de Paris et de France au moment du Second Empire se satisfait finalement très bien de ce système des cultes reconnus dont elle bénéficie depuis 1808 et a fortiori depuis 1831, depuis que les rabbins sont salariés par l'État, et envisage finalement la poursuite de cette expérience avec beaucoup d'attention, car c'est ce système des cultes reconnus, ce pluralisme religieux qui n'est pas remis en cause à l'époque du Second Empire, qui d'une certaine manière permet le développement du judaïsme français dans une atmosphère de relative harmonie malgré les tensions qui ont pu persister au cours de ces années. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre Jacques-Olivier Boudon s'exprimer sur le paysage religieux du Second Empire. Place maintenant à Yves Brulet de l'IEP de Paris, dont l'intervention porte sur la vie académicienne du philosophe Adolphe Franck. Les batailles intellectuelles et idéologiques font rage à l'époque dans cette Académie des sciences morales et politiques, et Adolphe Franck, qui y siégera pendant près d'un demi-siècle, de 1844 à 1893, y a laissé une place toute particulière. Yves Brulet, donc, Adolphe Franck, à l'Institut.
Il me revient d'évoquer devant vous l'académicien que fut Adolphe Franck, et vous comprendrez d'emblée à quel point je suis favorisé par rapport aux orateurs qui m'ont précédé. Je vais en effet parler d'un milieu d'Adolphe Franck, pour reprendre le titre de cette matinée, dans le lieu même que notre philosophe a fréquenté et illustré, l'Institut de France et plus précisément l'Académie des sciences morales et politiques. À ce premier avantage s'ajoute un second, c'est que les lieux n'ont pas tellement changé, à part ces micros qui vous permettent de m'entendre confortablement, et qui permettront aux auditeurs de Canal Académie, la radio en ligne de l'Institut, d'entendre une partie de ce colloque. Il est donc assez facile d'imaginer Adolphe Franck parmi ses confrères dans cette salle, ou juste à côté, dans la petite salle des séances où se réunit l'Académie des sciences morales et politiques pour ses séances ordinaires. Et donc il sera tentant pour moi, au cours de cet exposé, de faire réentendre quelques-unes de ces paroles prononcées jadis devant l'Académie. Or, la carrière académique d'Adolphe Franck nous intéresse à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle s'inscrit dans une période décisive de l'histoire de l'Académie des sciences morales et politiques. Cette Académie a été fondée, comme vous le savez, comme l'Institut de France en 1795, sous l'influence des idéologues et des sensualistes. Puis elle a été supprimée par Bonaparte en 1803, et recréé une deuxième naissance par Guizot en 1832. Et donc, lorsque Franck en devient membre en 1844, elle n'a guère que 12 ans d'existence, mais elle est déjà et très fortement l'enjeu et le terrain de batailles intellectuelles et politiques. Mais le parcours d'Adolphe Franck nous intéresse surtout par son exceptionnelle longévité. En effet, il a été élu, alors j'avais prévu de dire 34 ans, mais en fait, il n'a été élu qu'à 33 ans, puisque nous avons appris tout à l'heure qu'il est né en 1810 et non pas en 1809, donc ça rend la chose encore plus extraordinaire. Il a été élu à 33 ans, le 20 janvier 1844, et il a donc siégé à l'Académie pendant près de 50 ans. Et il a même été extrêmement assidu, presque jusqu'à sa mort, en fait, qui est survenue, comme on l'a dit, le 11 avril 1893. Donc, 44, janvier 44, avril 1893, presque 50 ans de carrière académique. Il y a, au fond, extrêmement peu d'exemples d'académiciens qui ont battu ce record. À part peut-être Mignet pour les sciences morales, qui est un contemporain, d'ailleurs, d'Adolphe Franck. Sa carrière à l'Académie, finalement, se confond presque avec sa carrière de philosophe, ce qui est, au fond, un cas assez exceptionnel, puisque souvent, l'Académie vient couronner une carrière et non pas la lancer. Et cette élection est venue très tôt, comme on va le voir. À cette longévité s'ajoute une activité véritablement exceptionnelle. En effet, pendant 50 ans, cet académicien modèle, serait-on tenté de dire, est présent, j'ai pu vérifier en préparant cette communication, dans tous les volumes des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, à raison de 2 volumes par an, ça fait donc 100 volumes. Heureusement, nous avons quelques index qui permettent de retrouver les traces des interventions fort nombreuses d'Adolphe Franck à toutes les époques de sa carrière. Et donc ces volumes des séances et travaux de l'Académie sont la source principale et presque unique au fond de ce modeste travail. Et cette recherche que j'ai faite permet de proposer ce que je dirais simplement un survol au fond de ce demi-siècle académique. Et il faudrait, je pense, des travaux beaucoup plus approfondis pour en tirer toute la substance. Il y a énormément de choses à lire, à reprendre, à synthétiser. Et là, je ne proposerai qu'un rapide survol. À cela s'ajoute aussi à la masse des documents, s'ajoute un autre élément, c'est que je ne suis pas moi-même philosophe, mais historien, en plus historien de la diplomatie, et je n'interviens ici que comme chargé de mission auprès de l'Académie des sciences morales et politiques, qui me donne un accès assez pratique à toutes ces sources, et aussi parce que je suis historien spécialiste du 19e siècle. Mais spécialiste de la diplomatie, alors j'ai vu quelque part un auteur dire que le cousinisme avait été une diplomatie philosophique. Du coup, je me sens beaucoup plus rassuré et maintenant, je me lance à l'eau. Alors, j'ai dit il y a un instant que la présence d'Adolphe Franck au sein de l'Académie avait duré plus de 50 ans. En fait, il faudrait même dire presque 50 ans. En fait, il faudrait même dire plus que 50 ans parce que sa présence par l'intermédiaire de Victor Cousin, a commencé dès le mois d'août 1839, lorsque Victor Cousin, qui est son maître, commence devant l'Académie des sciences morales la lecture du premier mémoire rédigé par Adolphe Franck sur la Kabbale. Alors à l'époque, il était assez rare d'être invité soi-même à faire une communication devant l'Académie, mais un membre pouvait lire, en y rajoutant d'ailleurs ses commentaires, le travail d'un chercheur. Et cette lecture pouvait occuper jusqu'à 3-4 séances successives. Alors on faisait plusieurs choses au cours des séances, mais l'essentiel était une partie de la lecture d'un mémoire, et c'est d'un mémoire inédit, et c'est ce qui s'est produit. Donc Victor Cousin commence la lecture, qui dure plusieurs séances, du premier mémoire d'Adolphe Franck sur la Kabbale. Deuxième acte, en 1842, Victor Cousin commence la lecture du deuxième mémoire d'Adolphe Franck sur la Kabbale. Et donc il habitue ainsi les oreilles de ses confrères à entendre non seulement le nom d'Adolphe Franck, mais aussi sa prose et son érudition. Et cette fois-ci, la lecture dure 4 séances consécutives. Et donc Victor Cousin lit pendant 4 séances les travaux de son élève. Et il conclut par des considérations dithyrambiques sur la méthode, sur la nouveauté du travail d'Adolphe Franck, et il termine donc le 23 avril 1842, et on comprend pourquoi il a pressé ainsi cette lecture, puisque le 30 avril, il y a une élection qui doit avoir lieu dans la section de philosophie, et on découvre en regardant de près les procès-verbaux que à cette élection est candidat au premier rang et presque imbattable Rémusat. Mais d'autres candidats se sont présentés, Ravaisson, Peisse, Cardeillac, et au quatrième rang Adolphe Franck. Il a été donc candidat une première fois en 1842. Alors bien sûr, Émusat a été élu au premier tour et très très largement, et Franck n'a aucune voix. Mais il a pris date en quelque sorte, c'est une étape vers une prochaine entrée, en tout cas c'est ce qu'espère Victor Cousin. Quelques mois plus tard, en juin 1942, Barthélemy Saint-Hilaire fait lecture, cette fois-ci c'est lui qui lit, c'est plus Victor Cousin, du troisième rapport de Franck sur la Kabbale. Et cette lecture débouche sur un vote. L'Académie vote la publication de tous les mémoires sur la Kabbale dans les mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une publication qui n'existe plus, mais qui a une certaine importance au XIXe siècle, où l'Académie décide de publier des travaux inédits, et des travaux d'une certaine importance. Et là, c'est un véritable livre, en fait, qui paraît avec les travaux d'Adolphe Franck. Puis, quelques mois plus tard, il y a un décès dans la section philosophie, puis un second décès, et donc, il y a une préparation d'élection qui commence à se faire, et Victor Cousin, alors pour une raison que je n'ai pas vraiment réussi à identifier, retarde, il règne, en gros, sans partage presque, sur la section de philosophie de l'Académie, il arrive à retarder l'élection pendant un an et demi, et l'élection va enfin avoir lieu en janvier 1844, mais auparavant, Victor Cousin a pris soin de présenter à l'Académie la publication sous forme de livre, toujours des travaux d'Adolphe Franck sur la Kabbale. Donc, pour une quatrième fois, on va en parler devant l'Académie, et à cela, quelque temps avant l'élection. Alors, c'est une élection très particulière. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire de l'Académie de cette façon. Alors, il y avait deux fauteuils à pourvoir en section philosophique, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais ce qui est particulier, c'est la façon dont les choses se sont produites. En effet, l'Académie a désigné une commission, comme d'habitude, pour classer les candidats, comme cela se fait encore aujourd'hui. Mais comme il y avait deux fauteuils, l'Académie a fait deux listes. Mais les candidats de ces deux listes ne sont pas séparés, en fait. Ils sont candidats aux deux fauteuils en même temps, c'est-à-dire qu'on peut voter pour l'une ou pour l'autre liste, quel que soit le fauteuil auquel on va pourvoir. C'est assez curieux, c'est un système qui a disparu aujourd'hui. Mais donc, en premier rang et hors ligne, est mis Adolphe Franck, là on sent la main de Victor Cousin dans ce classement des candidats. Puis ensuite, il y a toute une série, Ravesson, Bordas, Dumoulin, Cessé, Simon, puis la deuxième liste pour le deuxième fauteuil, premier rang Pesse, deuxième rang Buchez, Dubois d'Amiens, Adolphe Garnier et le docteur Lélu. Le docteur Lélu, en fait, le principal concurrent lancé contre Adolphe Franck. Et vous comprenez la difficulté d'être candidat à une élection contre un monsieur Lélu. Il y a un premier tour, Franck arrive en tête avec 10 voix, mais ce n'est pas suffisant, Lélu a 8 voix, puis d'autres. Deuxième tour, Franck a 12 voix, mais ce n'est pas suffisant pour passer. L'élu a 12 voix aussi, donc ils sont à égalité. Troisième tour, Franck 12 voix, l'élu 12 voix encore. Et là, se produit ce qui se produisait au XIXe siècle, mais qui n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'il y a un ballotage. À l'époque, le règlement de l'Académie prévoyait qu'au bout de 3 tours sans résultat, on prend les deux arrivés en tête et l'on fait un ballotage, et c'est celui qui a la majorité qui est élu. Ainsi, il n'y a pas d'élection blanche, en fait, au XIXe siècle. Et donc, là, Franck est élu de 13 voix, il gagne une voix, et l'élu n'a que 12 voix. Donc, l'élu est battu, si vous arrivez à me suivre, mais Franck est élu, donc il passe d'extrême justesse, finalement, à l'Académie, au ballotage, donc au quatrième tour, en fait. Puis, on procède à l'élection au deuxième fauteuil vacant, et là, on reprend la même liste, finalement, tous les autres sont encore candidats. Et l'élu obtient 12 voix au premier tour, mais c'est pas suffisant. 11 voix au deuxième tour, c'est toujours pas suffisant. Et là, au deuxième tour, il y a même un académicien qui vote pour Franck, qui a dû s'endormir entre-temps. Il ne s'est pas aperçu que Franck avait déjà été élu. Mais enfin, donc Franck a une voix alors qu'il est déjà élu. Et l'élu n'arrive pas à passer. 11 voix toujours. Bon, il y a un ballotage. Et enfin, l'élu est élu au deuxième fauteuil. Et donc, les deux concurrents, finalement, auront chacun le fauteuil, le même jour, ils sont élus tous les deux dans la section de philosophie. Et le contexte de cette élection est intéressant. En fait, il semble, si on en croit par certains articles de journaux de l'époque, que Adolphe Franck a été attaqué dans des publications, dans des brochures, par les jésuites. Et cette situation a été mise en avant, en fait, parce que nous sommes dans un contexte où les cousins et les cousiniens sont en lutte contre les catholiques libéraux qui sont, à ce moment-là, en train de réclamer, c'est tout le débat sur la liberté de l'enseignement, la contestation du monopole universitaire, dans le début des années 1840. Et là, les travaux d'Adolphe Franck, comme élève de cousin, ont été attaqués, et du coup, cet élément est plutôt porté à son crédit et le favorise, finalement, dans le contexte très tendu de ce moment. Cette élection de Franck marque un peu l'apogée, au fond, de l'influence de cette offensive de Victor Cousin pour prendre possession de la section de philosophie de l'Académie, donc là, qui culmine vers 1842-44. Alors, l'activité du jeune académicien, donc 33 ans, est très rapidement assez importante. Hein, on le voit beaucoup dans les séances. Il lit des mémoires, donc en fait, il porte à la connaissance de ses confrères des travaux personnels. Souvent, ce sont des articles qui vont paraître ensuite dans le dictionnaire des sciences philosophiques dont il est chargé essentiellement, mais dont il réserve la primeur en fait à l'Académie. Et donc, on le voit lire un certain nombre de mémoires qui sont en fait des articles sur tel ou tel thème. On le voit aussi critiquer des ouvrages, et quand je dis critiquer, dans tous les sens du terme, hein, des ouvrages qui paraissent sur tel ou tel sujet dont il est spécialiste. Puis, il y a une espèce d'ascension. En fait, on le voit de plus en plus présent dans les procès-verbaux. Il est extrêmement actif à partir de 1845 et jusqu'en même 48-49. En fait, il y a un moment là d'extrême activité. On le voit faire des communications sur toutes sortes de sujets, présenter des ouvrages. Et puis, surtout, il récupère une affaire qui a été lancée par Victor Cousin, qui est le concours de la section de philosophie. Donc, les différentes sections de l'Académie avaient un concours, à l'époque, biannuel. On lançait un sujet, on donnait un sujet, et les candidats envoyaient des mémoires manuscrits à l'Académie, des mémoires anonymes. Ces mémoires, souvent fort longs, et qui sont conservés dans un des bureaux de l'Académie, j'en ai retrouvé quelques-uns, avec la signature de Franck, qui marquait « Lu », Adolphe Franck, était examiné par un certain nombre d'académiciens, et ensuite, l'un d'entre eux était le rapporteur, faisait un très long rapport sur tout ce qu'il avait lu, et établissait un classement, qui était ensuite adopté par l'Académie. Or, au moment où Adolphe Franck entre à l'Académie, il y a une affaire qui était lancée depuis un certain temps. Victor Cousin avait lancé une série de concours, mais qui porte sa marque, en quelque sorte. Il avait une vision très histoire philosophique, en fond. Et les premiers sujets qui avaient été donnés au concours étaient des sujets d'histoire de la philosophie. Donc c'était la métaphysique et la logique d'Aristote, puis l'école d'Alexandrie, puis le cartésianisme, puis la philosophie allemande moderne. Il avait prévu un concours sur la scolastique, mais qui sera reporté un peu plus tard, qui sera remporté par Barthélemy Oreo, dont nous avons déjà parlé. Mais en 1843, donc, il y a eu beaucoup de critiques contre ce parti pris d'histoire philosophique. Et pour compenser, Victor Cousin a décidé de donner un sujet, alors cette fois-ci de théorie, un bon sujet qui ne soit pas d'histoire philosophique. Et le sujet, c'est la certitude. La certitude. Y a-t-il quelque chose de certain ? La raison peut-elle arriver à la certitude ? 19 mémoires, quelques-uns considérables, en plusieurs volumes, arrivent à l'Académie. Victor Cousin se dépêche de refiler cette affaire à Adolphe Franck, qui va devoir lire l'intégralité des 19 mémoires. Et son rapport, en fait, qui va lui demander des mois de travail, représente lui-même un véritable livre, en fait, qui va paraître sous forme de livre plus tard, hein, et qui est intitulé « De la certitude », et qui fait 500 ou 600 pages. Et il va tenir 9 séances successives de l'Académie sur la certitude pour rendre compte des travaux envoyés par les candidats. Et alors, certains sont très bons, et d'autres moins bons. J'ai noté cette phrase un peu pour l'amusement. Il est hors de doute que l'auteur, donc il parle d'un des rapports, de ses mémoires s'est inspiré de Kant, mais il est tout aussi évident qu'il ne l'a pas compris. Donc, celui-là n'a pas eu le prix. Et à la fin, donc le dernier mémoire présenté est le meilleur, et c'est celui qui remporte le prix, qui s'appelle Javary. Personnellement, je ne le connais pas, mais enfin, si quelqu'un le connaît, donc c'est lui qui a remporté le prix sur la certitude. Alors, le grand moment, le choc, au fond, dans la carrière académique, le premier en tout cas, c'est 1848. Les révolutions de 1848, la peur des Rouges. Et il y a une véritable mobilisation académique dont Adolphe Franck est l'un des meneurs, on peut dire. Il y a de très nombreux travaux qui portent la marque des circonstances, finalement, notamment ce travail qui est lu d'abord à l'Académie, puis ensuite qui paraît sous forme de petit traité, hein, et qui s'appelle « Le communisme jugé par l'histoire », qui est une contestation du communisme par Adolphe Franck, qui dénonce le dévoiement intellectuel qui porte les Rouges, au fond, à la Révolution. Il parle d'une nouvelle invasion de la barbarie, et il appelle les intellectuels, alors qu'on ne dit pas intellectuels, mais les savants, les académiciens, à devenir les apôtres, les martyrs de cette lutte contre la barbarie, et une espèce d'appel à l'héroïsme tout à fait pathétique dans son discours sur le communisme. Puis on le retrouve sur des sujets plus dans, comment dirais-je, dans ses travaux d'érudit, un mémoire sur Maïmonide, un autre sur les principes de la morale, etc., j'en passe. Et puis un jour, il présente un livre très curieux, une petite plaquette, dont l'auteur s'appelle Gandon. Il n'est pas connu parmi les philosophes, en effet, il n'est pas vraiment philosophe, puisque c'est un ouvrier cordonnier dont Adolphe Franck a fait la connaissance. Mais ce cordonnier a appris à lire tout seul, il s'est instruit un peu tout seul, il est autodidacte. Il s'est passionné un moment pour le communisme, et puis un jour, il a lu les évangiles et il s'est converti. Et il a brûlé ce qu'il avait adoré la veille, et il a fait une petite brochure pour dénoncer le communisme. Et Adolphe Franck est tout satisfait de présenter à l'Académie ce petit ouvrage, un ouvrier qui lutte contre le dévoiement des Rouges. Et donc, sa carrière se poursuit dans les années 50. Je ne vais pas tout énumérer, mais je me suis un peu attardé sur les premières années pour montrer comment fonctionnait cette Académie à cette époque. Il devient président de l'Académie en 1860. C'est une présidence qui est honorifique, on peut dire, et qui est annuelle. Et à l'occasion de cette présidence, il tient un discours sous la coupole où il donne, au fond, sa vision de l'Académie. Et c'est intéressant, je pense, d'en citer un petit passage. Il donne l'idée qu'il se fait de l'Académie des sciences morales et politiques et de son utilité, au fond. Et il dit ceci, « Considérer séparément chacune des sciences que cette Académie a l'honneur de représenter au sein de l'Institut de France remonte à une époque déjà très reculée. Mais isoler les unes des autres, ces différentes branches des connaissances humaines, n'avaient qu'une faible influence sur la société. » Ça, c'est un point crucial pour lui. « Car il leur arrivait rarement de s'entendre, et livrées sans contrôle à elles-mêmes, elles ajoutaient au spectacle de leurs désaccords celui de leurs exagérations et de leurs erreurs. Ce fut donc une grande et salutaire pensée de les réunir, je ne dirais pas comme des sœurs, mais comme les membres dispersés d'un même corps, comme des organes dans lesquels circule une même vie et qui doivent obéir à une seule âme. » C'est la définition de l'Académie qui est pluridisciplinaire. Cette pensée, ajoute-t-il, que le XVIIIe siècle a réalisée dans cette enceinte, n'est pas seulement destinée à diriger dans une voie plus sûre et plus large les recherches de la science. Elle doit exercer, tôt ou tard, une influence non moins heureuse sur la conscience publique, par conséquent, sur les institutions, sur les lois, sur le gouvernement même de la société. Là, on touche le point crucial pour lui. Il y a non seulement le caractère pluridisciplinaire de l'Académie, mais l'Académie doit être utile à la société et au gouvernement lui-même. Alors, si on veut examiner synthétiquement, par thème, un peu par type d'intervention, sa carrière académique, je retiendrai quatre types d'intervention. D'abord, ses propres travaux qu'il continue à présenter devant l'Académie, mais de moins en moins. En fait, on voit, si on peut vous lire la liste de ses interventions, qu'il continue à lire des mémoires dont il est l'auteur, mais au fond, à peu près au moment où il devient professeur au Collège de France, ce type d'intervention cesse, parce qu'au fond, il n'en a plus vraiment besoin. Ses propres recherches, il va les faire, il va les exposer au Collège de France. Deuxième type d'intervention, les rapports pour les prix. Alors là, par contre, il est toujours mis à contribution. Apparemment, on a aimé son rapport fleuve sur la certitude, et donc il est de nouveau à plusieurs reprises chargé d'être le rapporteur des concours de l'Académie sur toutes sortes de sujets de philosophie, d'Origène à Cicéron, etc. Troisième rôle qu'il joue, il est quelquefois intervenu dans le cadre de missions chargées par les pouvoirs publics. Et notamment, il y a un cas très intéressant, à la fin des années 1850, le gouvernement, exactement le ministre de l'Instruction publique, a chargé l'Institut de France d'étudier la question de l'instruction aux sourds-muets, qui était un sujet très débattu. Plusieurs livres avaient paru avec des méthodes totalement différentes pour s'occuper des sourds-muets. Et donc, le gouvernement a dit que l'Institut va rendre un rapport pour savoir ce qu'il faut en penser. Et chaque académie a désigné un des membres. Adolphe Franck a été désigné pour les sciences morales. Aussitôt, il a été désigné rapporteur par ses confrères. Du coup, il se retrouve chargé de l'instruction des sourds-muets. Et il lit les livres qui ont paru, qu'il faut examiner. Il dit, c'est très bien tout cela, mais on ne peut pas donner un avis si on n'a pas vu comment ça fonctionnait. Donc, il retourne voir le ministre. Il dit, donnez-nous les moyens d'aller étudier sur place comment ça marche dans les établissements spécialisés pour l'instruction des sourds-muets. Et il fait un tour de France, dans une dizaine de villes différentes. Il va étudier dans des institutions pour les sourds-muets. Et à la fin, il fait un long rapport qu'il présente à l'Académie, puis ensuite qui est remis au ministre. Et il donne des conclusions alors assez techniques, à vrai dire, c'est un domaine qui m'est peu familier, mais dont l'idée principale est qu'au fond, il ne sert pas à grand-chose de vouloir former les sourds-muets en même temps que les autres élèves, qu'il est beaucoup plus préférable d'avoir des classes particulières, apparemment c'était un débat de l'époque, et qu'il demande qu'il y ait des classes spéciales dans chaque grande ville pour que les jeunes sourds-muets déshérités puissent suivre une instruction sans être obligés d'aller dans des pensionnats. Ainsi, ils restent dans le cadre familial. Voilà. En gros, en résumé, le résultat de cette enquête, on cite toujours les enquêtes du docteur Villermé sur les enfants ouvriers dans les années 1840, en fait, il y a eu d'autres cas d'enquêtes dont l'Académie a été chargée. Il est aussi chargé de tracer les grandes lignes du programme de morale, dont on a déjà parlé tout à l'heure, pour l'enseignement secondaire spécial. Et il va même publier un manuel qui a été cité déjà tout à l'heure. Et c'est peu après, d'ailleurs, je remarque que l'empereur lui propose de devenir sénateur, ce qu'il refuse, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais la participation essentielle d'Adolphe Franck à la vie de l'Académie, c'est Adolphe Franck lecteur. Il lit énormément de livres et il en fait des rapports, souvent très longs. Alors de moins en moins longs, parce que les usages de l'Académie se sont plutôt restreints au fil des années. Et donc à la fin, ils font en général 2 ou 3 pages seulement. Mais au début de sa carrière, c'est quelquefois 20, 30 pages de rapports sur un livre. Et donc c'est un travail énorme. J'ai compté 171 rapports sur des ouvrages parus, sur toutes sortes de sujets. Ça va du nirvana bouddhique à l'esclavage au Brésil, de l'ennui considéré comme cause du suicide à une biographie de Maine de Biran. Alors, il se retrouve plus dans son domaine. Et on trouve notamment une charge très violente contre un des livres d'Ernest Renan, hein, l'histoire générale des systèmes comparés des langues sémitiques. Alors, l'attaque de Franck ne porte pas tellement sur l'affaire des langues sémitiques, mais sur la thèse de l'inégalité des races humaines qui est contenue dans l'ouvrage. Et il en fait une description même sarcastique, hein, à un certain moment, une charge contre cette doctrine, ce qui nous paraît aujourd'hui tout à fait banal, ne l'était pas forcément en 1856. En revanche, il dit beaucoup de bien de certains auteurs, notamment un juriste qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Paul Pradier-Faudéré, c'est un spécialiste de droit des gens, donc droit international public, qui a l'avantage à ses yeux d'avoir fait profession de spiritualisme, y compris dans ses ouvrages de droit, et donc il approuve bien sûr cette doctrine. Et jusqu'à la fin, donc, Adolphe Franck est resté un lecteur très actif au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Et j'ai consulté plus spécialement, comme je l'ai fait pour le début, la fin de sa carrière académique. Et on le trouve présent quasiment à toutes les séances, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Après 50 ans, il ne s'est pas lassé, ses confrères non plus, apparemment. Le 13 février, par exemple, 1892, il présente un livre de René Worms sur la morale de Spinoza. Le 27 février, il présente un livre de Léon Droni sur le taoïsme, vous voyez, toujours une multitude de sujets. Le 19 mars, c'est un livre d'Henri Joly sur le combat contre le crime. Vous savez, il faut rappeler qu'il enseigne la philosophie du droit. Il a enseigné longtemps la philosophie du droit au Collège de France. Le 23 avril, il dépose sur le bureau de l'Académie un exemplaire de la troisième édition de son livre sur la Kabbale. Et il précise qu'il avait déposé la première édition à pareil jour, il y a 49 ans. Peu d'académiciens pourraient dire cela. 49 ans avant, il avait la première édition de son ouvrage. 30 juillet, il présente pour la dernière fois un livre paru récemment. Il s'agit d'une étude d'Amelino sur la morale égyptienne 15 siècles avant notre ère, d'après le papyrus de Boulak numéro 4. Il précise aussitôt, et peut-être le fallait-il, que ce livre avait été d'un grand intérêt pour l'Académie des sciences morales et politiques. On pourrait effectivement penser qu'il devrait intéresser surtout les inscriptions et belles-lettres. Eh bien non, pas du tout, car le papyrus déchiffré par le savant Amelino est plus ancien que tous les textes de la Bible, et bien sûr plus ancien que tous les textes de la philosophie grecque, et qu'il expose des principes de morale à l'usage des Égyptiens, finalement assez proches de ceux du Pentateuque, notamment, dit-il, sur l'enfance, sur le mariage, sur la pauvreté, sur la vieillesse. Et là, on retrouve le moraliste qui apparaît dans sa dernière intervention devant l'Académie des sciences morales et politiques. Après, eh bien, la trace d'Adolphe Franck est manifestée par son absence, puisque à partir du 4 février 1893, le procès-verbal des séances successives indique que le secrétaire perpétuel donne de bonnes nouvelles d'Adolphe Franck. On comprend qu'il n'est plus là. Puis des nouvelles d'Adolphe Franck, on comprend qu'il va moins bien, et un jour, eh bien, on annonce son décès en avril 1893, et le regret est considérable parce qu'à quelques mois près, il aurait atteint les 50 ans de vie académique, et une cérémonie spéciale était déjà organisée pour cet anniversaire, et une médaille à son effigie était réalisée, était modelée, mais elle n'a pas été frappée, puisque il est mort trop tôt, en fait. Et donc, il doit y avoir quelque part un modèle d'une médaille de commémoration avec le portrait d'Adolphe Franck, que nous n'avons pas, en tout cas pas à l'Académie. Donc, ses confrères ont dû se contenter d'un portrait oral ou écrit lors des éloges funèbres, sous forme donc d'hommage, et tous insistent sur la combativité d'Adolphe Franck dans les séances à l'Académie des sciences morales, et combativité jusqu'à la fin. Et son successeur, donc, qui est Alfred Fouillé, qui est le mari de l'auteur du Tour de la France par deux enfants, sous le pseudonyme de Giordano Bruno, comme chacun sait. Donc Alfred Fouillé est élu donc, au fauteuil d'Adolphe Franck. Et il dit ceci dans l'éloge qui a été prononcé ici même, et c'est assez émouvant finalement de retrouver les mêmes mots au même endroit, même si la voix n'est pas celle d'Alfred Fouillé. Il disait ceci: sincère, nul ne le fut plus que lui, d'une sincérité ardente qui finissait quelquefois par ressembler à de la passion. Une idée qu'il croyait vraie s'était-elle emparée de son esprit, elle le possédait tout entier, il ne voyait plus qu'elle. Il la soutenait envers et contre tous, avec une fougue que les années ne purent jamais abattre. Ses yeux brillaient d'une flamme intérieure, sa parole saccadée et incisive semblait trancher un nœud gordien. Et Alfred Fouillé achevait l'éloge de son prédécesseur par ces mots: la paix et la justice, la paix par la justice, voilà donc quel fut le but de cette existence toute consacrée, non seulement à la méditation, mais à l'action. Monsieur Franck ne fut pas de ceux qui se tiennent renfermés dans les temples sereins de la sagesse. Il comprenait qu'à notre époque, les plus hautes théories sont en même temps les plus pratiques. Ce sage fut un philanthrope. Quel plus bel éloge pour un moraliste! En entendant ainsi les mots par lesquels le successeur d'Adolphe Franck l'évoquait devant l'Académie, on ne peut s'empêcher de penser à ce que disait Sénèque à propos d'un de ses maîtres: tout ce qu'il dit, non seulement il le pense, mais il l'aime. Je vous remercie.
C'était Yves Bruguet qui retraçait en colloque le parcours académique du philosophe Adolphe Franck de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous pouvez par ailleurs retrouver sur le site nos autres émissions historiques avec Jacques-Olivier Boudon et Yves Bruguet. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour de nouvelles retransmissions.